pendant la semaine prochaine. Et puis nous allons étudier la signification de la période du Homer dans laquelle nous nous trouvons, entre Pessah et Shavuot, et en particulier la place de Yom HaTzmaout dans le Homer, puisque nous sommes à la veille de Yom HaTzmaout. Est-ce que vous avez déjà étudié ces questions-là? Bon, alors je vais d'abord rappeler un certain nombre de repères du point de vue du calendrier. Et je crois que la première chose par laquelle il faut commencer, c'est la signification du mot Homer. Je vais vous l'écrire au tableau, mais ce n'est pas la peine. Oui, Haïm, Memresh. Alors, il y a deux significations différentes qu'il faut bien distinguer. Dans notre temps, la notion de Homer renvoie à une notion de deuil. Vous avez dû remarquer d'ailleurs que j'ai la barbe du deuil, ça va passer demain, mais c'est une barbe homérique. Ça, c'est très tardif que le mot du Homer a pris ce sens d'une période de deuil. Et l'événement historique à laquelle ça se réfère, c'est la destruction de l'armée de Bar Kokhba au moment de la dernière révolte des Judéens contre les Romains, il y a 2000 ans, et qui date, retenez bien la définition, la perte définitive de l'indépendance nationale d'Israël au temps de Rome. Donc depuis cet événement de la destruction de l'armée de Bar Kokhba par les Romains, vous avez des notions comme Bétar, où il y a eu la grande bataille où finalement les Judéens ont perdu la guerre de leur résistance contre les Romains. À partir de ce moment-là, s'arrête le temps de l'indépendance nationale d'Israël sur sa terre. Et puis, ça a repris qu'en 48, avec l'État d'Israël contemporain, qui est commémoré à Yom HaTzmaout. Et alors, pour la tradition, c'est retenu comme étant la commémoration de deuil d'une catastrophe qui a atteint les élèves de Rabbi Akiva en ce temps-là. Je pense que ça vous est familier. Hein ? En français, on dit épidémie, mais il me semble que c'est très mal traduit. Le mot hébreu, c'est magepha. Magepha, ça peut être une épidémie, mais c'est en réalité une catastrophe de mort avant son temps. Lorsqu'il y a un grand nombre de peuples, je m'exprime mal, lorsqu'il y a un grand nombre d'individus dans le peuple qui meurent en même temps, qui sont atteints d'une catastrophe, d'une magepha, ça peut être à cause d'une maladie, ça peut être à cause d'une épidémie, mais ça peut être à cause de massacres, ça peut être à cause de pogroms, ça peut être à cause de guerres. Ça s'appelle magepha, negef, magepha. Quand vous serez familier au sens des mots hébreux, vous verrez que ça ne recoupe pas toujours exactement les traductions qu'on vous donne dans les dictionnaires. Alors encore une fois, et après on oublie ça, magepha, ça peut être épidémie, mais il s'agissait de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Je reviendrai sur la définition que la tradition donne de cet événement. Or, les élèves de Rabbi Akiva, c'était le gros de l'armée de Bar Kokhba. Un peu comme aujourd'hui de notre temps, il y a une espèce de correspondance assez frappante. La majeure partie des sionistes religieux qui forment la résistance, aujourd'hui d'ailleurs dans ce qu'on appelle les territoires, mais d'une façon générale, le fer de lance de la Khalutiyout religieuse, ont été formés dans les Bnei Akiva. C'est une coïncidence que je voulais mettre en évidence. Il y a sûrement une raison profonde qui nous échappe, mais enfin, ça, que ça revienne 2000 ans après, que ce sont les élèves de Rabbi Akiva qui étaient les soldats de Bar Kokhba, et ce sont les élèves des Bnei Akiva, donc de Rabbi Akiva, qui sont les militants des Khalutim de Itnachaluyot. Vous comprenez la correspondance, hein? Et selon la tradition, cette catastrophe, cette magepha, a atteint les élèves de Rabbi Akiva, donc qui étaient les soldats de Bar Kokhba, parce qu'ils étaient, il y avait la division entre eux. Littéralement, la formule traditionnelle que nous a gardé la Gemara et le Midrash, c'est qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Vous devez d'ailleurs percevoir un peu dans tous ces milieux cette espèce d'éclatement en secte, en tendance, en école, en rivalité, en obédience. chacun se considère comme étant le centre du monde, et que les juifs à côté, c'est comme s'ils étaient de l'autre côté du monde. Vous avez compris ce que je veux dire, Ken? C'est cette espèce d'état qui est propre à la société juive en général. C'est un problème général que le Maharal a étudié, Maharal en particulier, a étudié pourquoi cette société qui est censée avoir pour idéal l'unité, c'est la société la plus divisée au monde, la société juive. Comment s'expliquer cela? Et c'est un sujet sur lequel je ne veux pas rentrer maintenant. Mais simplement, il faut qu'on prenne acte que la tradition a mis ça en épingle, a mis ça en évidence. La raison de la défaite des Judéens vis-à-vis des Romains, c'est la division des Judéens vis-à-vis des Romains. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que c'est l'état actuel de la société israélienne, de la société juive en général, par rapport à un monde arabe qui est actuellement l'ennemi d'Israël, un de plus, qui est lui uni contre Israël. La société juive en général, la société israélienne, est extrêmement divisée, et c'est ce qui fait sa faiblesse. C'est-à-dire, s'il y avait unité, ça serait invincible. Et tout le monde le sait. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas unité. Et en particulier dans les milieux religieux, et en particulier, malheureusement, dans les milieux sionistes religieux. Donc, vous voyez comment il y a une correspondance de l'événement qui revient de 1000 ans après. Et j'ouvrirai une petite parenthèse. Ça vaut la peine de comprendre ces choses-là un peu telles qu'elles sont réellement. La raison pour laquelle le gouvernement actuel a gagné les dernières élections, c'est précisément la division des sionistes religieux. Puisqu'il y a eu deux listes, celle du Rav Levinger et celle du Rav Mizrahi, tous les deux des sionistes religieux, qui se sont présentés à part des grands partis sionistes et qui ont fait perdre les élections, en fait, du moins, qui ont fait gagner les élections au gouvernement Rabin. Et ça s'est joué à une voix. Et cette voix, c'est le Rav Levinger qui est responsable de la majorité qu'a le gouvernement actuel. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Okay. Pourquoi? Par orgueil personnel, par égocentrisme, exactement. Bon, j'ai cité le Rav Levinger parce qu'il mérite d'être cité, mais il n'est pas le seul responsable. Le Rav Mizrahi est tout aussi responsable. Ils ont fait que la majorité en nombre absolu de voix était pour la droite, mais le gouvernement est un gouvernement de gauche parce qu'il y a une voix de plus à la Knesset à la suite des élections. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez du chiffre, là. Et en plus, d'ailleurs, la majorité en question est garantie au gouvernement Rabin par les voix des députés arabes. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Les voix des députés arabes et des orthodoxes anti-religieux. D'ailleurs, ce n'est pas un lapsus. Les orthodoxes anti-sionistes. Ce qui est une histoire de fou. Lorsqu'un observateur objectif observe ces problèmes de la société israélienne en tant que société juive, c'est un mystère absolu, une perplexité totale. J'ai souvent des conversations avec des non-juifs qui veulent essayer de comprendre, ils n'y comprennent rien. Ils ne comprennent pas ce peuple. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors là, ça se rattache à ce qui est enseigné à propos de ce problème du Homer, c'est-à-dire la division des élèves de Rabbi Akiva entre eux, la division donc des armées judéennes qui luttaient contre les Romains, et qui fait que la résistance judéenne a perdu la guerre contre les Romains. Mais c'est tardif, il y a 2000 ans, alors que l'institution du Homer date depuis bien avant par la Torah, du temps de la sortie d'Égypte, et je commencerai par vous expliquer ce que c'est que le Homer pour la Torah, en mettant entre parenthèses cette signification de deuil à la suite des événements que je vous ai rappelés. C'est clair jusque-là? Alors, le mot de Homer signifie en hébreu une gerbe. Et il s'agit de la gerbe qui était préparée à partir de Pessah pour la gerbe des prémices de la récolte. Vous savez que c'est les prémices? Bikurim en hébreu. C'est-à-dire les premières pousses qui arrivent de n'importe quelle récolte sont mises à part, elles sont signalées, on attachait un ruban, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, pour dire que c'était les premières pousses qui sont apparues, et celles-là étaient offertes au temple. C'est l'offrande des Bikurim à Shavuot. Mais dans tous les cas, la première gerbe devait être apportée au temple pendant toute cette période entre Pessah et Shavuot. Alors, Homer, ça veut dire la gerbe. L'offrande propre à Pessah, c'était l'offrande d'orge, l'offrande propre à Shavuot et l'offrande de blé. Ça, c'est encore un autre sujet, la différence de liturgie entre Pessah et Shavuot. Je vous le dirai, très brièvement. Mais vous demanderez à étudier les textes. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire lire ces textes aujourd'hui. Que la Torah demande que cette période qui est entre Pessah et Shavuot, qui s'appelle la période de Sfirat HaOmer, le compte du Homer, on comptait chaque jour le temps qui nous séparait de Shavuot, le temps qui était resté pour les agriculteurs pour apporter leur temple, apporter leur gerbe au temple. Ça, c'est la période du Homer. Alors, ce que nous devons surtout comprendre, premièrement, c'est pourquoi cette période de deuil concernant la défaite de l'armée de Bar Kokhba, cette catastrophe, cette magéfa qui a atteint les élèves de Rabbi Akiva, et retenez que le sens spirituel, c'était la discorde intérieure. Je voulais vous signaler tout à l'heure, je le complète, que dans la lutte contre les Romains à Jérusalem, il y avait trois armées judéennes qui luttaient contre les armées romaines. Alors, la nuit, les trois armées judéennes luttaient entre elles, la guerre civile, hein. Il y avait Shalom Arshav, il y avait Gush Emunim, il y avait toutes ces histoires-là. Et j'ai la guerre entre eux la nuit, et le jour, ils étaient alliés contre les Romains pour faire la guerre contre les Romains. Vous comprenez que, quelle que soit la force des Judéens, les Romains ont fini par les avaler à cause des discordes intérieures. Et je ne veux pas trop vous donner de cauchemars, aucun peu de cauchemars, c'est à vivre. Mais enfin, nous sommes exactement dans une situation très, très analogue. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, c'est exactement le même problème. Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a une coïncidence ou est-ce que ça a été une décision finalement arbitraire, conventionnelle, de situer cette période de deuil, donc, qui commence il y a 2000 ans, après la perte de l'indépendance au temps des Romains, précisément dans cette période entre Pessah et Shavuot. Vous avez compris ? Vous avez compris la question ? Donc, ce n'est pas une question simple, mais je vais essayer de l'éclairer de différentes manières. En fait, en ce qui concerne le deuil à proprement parler, vous allez prendre les dispositions précises. Il y a trois manières de commémorer ce deuil du Homer, suivant les communautés. D'une façon générale, la plupart des communautés observent un deuil de 33 jours. Et vous savez que le Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, c'est un jour de fête où est suspendu le deuil. Pour certaines communautés, ça s'achève là. Pour d'autres, c'est suspendu jusqu'à Shavuot. Je vais expliquer plus en détail tout à l'heure. Parce que c'est le jour où cette magéfa s'est arrêtée. Le jour où cette magéfa qui a atteint les élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée, c'était le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pourquoi ce jour-là, le Lag BaOmer, on l'appelle la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hiloula, aujourd'hui, ça c'est un peu déprécié. Toutes ces hiloulotes que n'importe qui fait au nom de n'importe quoi, ramasser de l'argent, vous avez dû remarquer cela. Vous avez la hiloula sur Seine, vous avez la hiloula la hiloula d'Ajaccio, la hiloula de ce que je sais. C'est dégradé. La hiloula, c'est une fête avec une liturgie kabbaliste, une fête de famille qu'on faisait pour honorer la mémoire des grands saints. Et alors aujourd'hui, ça devient des kermesses dans des centres communautaires où on la vente aux enchères de n'importe quoi avec n'importe quoi pour faire entrer de l'argent pour n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un scandale ce qui se passe. Enfin, on laisse ça de côté. Et le mot de Hiloula, c'est de l'araméen, hein, qui veut dire le mariage. Ça veut dire les louanges, les chants du mariage. C'est la Hiloula. Mais ça ressemble un peu à Hallel. Mais c'est un mot araméen, pas un mot hébreu. Alors on considère que la mort d'un grand sage est un mariage de son âme avec le monde à venir, avec le monde éternel. Alors donc, on commémore l'anniversaire de la mort des grands rabbanim par une hiloula, par une fête de mariage. Alors donc, le Lag BaOmer, Lag c'est Lamed Gimel, ça fait 33, Lag BaOmer est appelé la hiloula, parce que c'était le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le mérite a fait que cette magéfa s'est arrêtée. Vous avez compris pourquoi la base, la première remarque, du point de vue de la halakha, la base de ce deuil, c'est 33 jours. pour la plupart des communautés, mais pas toutes. Alors je vais vous dire les trois manières dans les différentes communautés de pratiquer ce deuil. Et c'est un deuil réel, total. On prend le deuil comme si c'était un deuil familial. On se rase pas, on se coupe pas les cheveux, il n'y a pas de musique, il y a de fête, vous connaissez tout ça. Ça commence un peu à se détendre maintenant que l'État d'Israël a reconstitué un peu le caveau du peuple d'Israël, mais la Rabbanne n'a encore pas décidé de suspendre ce deuil. Sauf le Yom HaTzmaout, je vous dirai comment. Et alors, chez les Sfaradim, le deuil commence à Pessah et s'arrête le 33e jour du Homer. Là, je veux dire, la période du Homer, qui est cette période de deuil, commence à Pessah et s'arrête le 33e jour du Homer. Le premier jour du Homer, c'est le deuxième jour de Pessah. Bon, vous verrez d'ailleurs, nous avons des machins qui indiquent à chaque fois le jour de la veille. Hein. Je ne sais pas si ça a été remis à l'heure ce matin. Alors que chez les Ashkenazim, le deuil commence le premier Iyar et s'arrête à Shavuot. Alors je vais vous expliquer la différence. Pour le rite Ashkenaz, on considère que tout le mois de Nissan étant un mois de fête, on ne prend pas le deuil pendant le mois de Nissan. Ça, c'est la logique du rite Ashkenaz. Hein. Vous savez que le mois de Nissan, on n'a pas de liturgie de deuil dans la prière habituelle. Je ne sais pas si vous savez ça, vous l'apprendrez. On ne dit pas Tachanoun. C'est parce que ce n'est pas grave, mais vos enfants sauront. Et tout ce qu'il y a dans la liturgie, dans la prière, qui se réfère à une commémoration de deuil, est supprimé pendant le mois de Nissan. Parce que tout le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, est considéré comme un mois de fête. Donc les Ashkenazim ont ce principe que le deuil de Homer ne commence que le premier Iyar. Et ça fait effectivement du premier Iyar jusqu'à Shavuot, avec une interruption à l'Akba Omer. Mais dans certaines communautés, disons, dont le rite à l'origine était influencé par le rite des Kabbalistes, tant chez les Sfaradim que chez les Chassidim, chez les Ashkenazim, vous verrez certaines familles, certaines communautés qui prennent le deuil les 50 jours entre Pessah et Shavuot. Certains avec interruption à l'Akba Omer, certains même sans interruption. Alors oui, essayez de comprendre pourquoi il y a ces différences. C'est à cause de la raison fondamentale de ce que représente cette période du Homer. Si nous avons le temps tout à l'heure, j'essaierai de vous expliquer la logique qu'il y a dans la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Non plus que vous remarquerez que la formule de la récitation du conte du Homer Chaque jour, on commence à la prière du soir. Si on a oublié la prière du soir, on a le temps de rappeler jusqu'à midi, sans bracha, le nom du conte du Homer où on se trouve, et on continue le lendemain avec bracha. Mais si on a oublié un jour, on dit le conte, mais sans bracha, on a arrêté jusque... Si le conte a été arrêté une fois avec la bracha, on n'a plus le droit de dire la bracha cette année-là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est clair ce que j'ai dit ? Vous savez qu'il y a dans beaucoup de familles, je crois même dans les deux communautés, Ashkenaz comme Sepharad, on a l'habitude de faire un repas de laitage, un repas halavi à Shavuot. Vous savez cela. Mais je vous expliquerai comment ça doit se faire parce qu'il y a finalement, il y a un tel folklore qui s'est installé là-dedans depuis des siècles que c'est la pagaille, surtout dans les mariages mixtes, où la femme est Ashkenaz et le mari Sepharad ou l'inverse. Mais je reviens au problème. D'ailleurs, tous les mariages sont mixtes, c'est un homme mixte. Parce que, alors ceux qui ont arrêté de faire le conte du Homer, parce qu'ils ont oublié, n'ont pas droit à ce fameux gâteau au fromage de Shavuot. Je ne sais pas si vous rappelez ça dans vos anciennes familles. C'est la raison pour laquelle le premier repas après la prière du Shabbat, du matin de Shavuot, est un repas halavi. C'est parce que à Shavuot, on a reçu la Torah, et donc on devient soumis aux lois de la Kashroute, et par conséquent, pour indiquer qu'on a reçu la Torah ce jour-là, on commence par faire un repas halavi, parce qu'on n'a pas encore séparé le lait et la viande. Je ne sais pas si vous avez compris la logique. C'est pas clair ? Jusqu'au moment du Sinaï, les Hébreux ne pratiquaient pas la Torah. Or, au Sinaï, ils ont reçu la Torah. À partir du moment où ils ont reçu la Torah, ils sont soumis aux lois de la Torah, donc de la cacheroute. Et par conséquent, on indique cela par un premier repas évidemment cachère, puisqu'on sépare le lait de la viande. Vous voyez, c'est clair ? Donc, voilà d'où ça vient. Ceci dit, il y a d'autres raisons que le Midrash explique, en particulier dans le rite séfarade, il y a un psaume qu'on lit le jour de Shavuot, et dans ce psaume, le Har Sinaï est appelé Har Gavnounim. Har Gavnounim, ça ressemble à Gvina, qui signifie fromage. Bon, de toute façon, on sait que la Torah est comparée au lait, et pas seulement au lait, mais elle est aussi comparée au lait. Et toutes ces choses-là, vous avez le temps d'étudier en détail. Ce sont des significations de symboles qui se surajoutent. Mais la règle fondamentale, c'était cela. Le premier repas de Shavuot doit être un repas halavi pour indiquer qu'on a pris sur soi, au Har Sinaï, la Torah, donc les lois de la Kashrout. Vous avez compris, c'est pas compliqué. Ceci dit, il est arrivé dans certaines communautés, surtout chez les Ashkenazim, que ce repas de laitage, ils le font la veille, le soir de Shavuot. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort. C'est encore du folklore tourné à l'envers par les grands-mères dont le père était rabbin. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Okay. Chacun dit, chez moi, on faisait comme ça. Alors on croit que c'est une autre tradition, c'est tout simplement une erreur. Ça m'est arrivé souvent, j'ai des élèves de tous les rites. Alors il y a des gens qui me chantent les psaumes de façon incohérente. Alors ils me disent, c'est notre manière de chanter. Par hasard, je connais ce rite, et c'est tout simplement des fautes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est quelqu'un qui ne sait pas chanter, et il dit, c'est notre tradition. Vous avez compris ce que je veux dire ? Méfiez-vous de ça. Hein. Il n'y a aucune idée à quel point, dans un temps où il y a beaucoup de Baalei Teshuva, vous avez dans les synagogues des minyanim entiers qui chantent faux, parce que c'est des gens qui n'ont pas appris le rythme du chant, tout simplement. Et ils disent, c'est notre tradition. C'est une tradition de la Martine. D'ignorants. Vous avez compris ce que je veux dire ? Méfiez-vous de ces choses-là. Quand je vous dis que c'est une autre tradition, derrière, il y a souvent une erreur. Vous avez compris ce que je veux dire ? Bon. Alors, comme disent les Tunisiens, la vérité est une. Il n'y en a pas deux. En tout cas, pour revenir au sujet, non, je veux dire, même, quel que soit le rite, on peut chanter juste ou on peut chanter faux. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que quelqu'un qui chante faux, c'est qu'il a une autre tradition. Ça y est, c'est clair ? Donc, vous avez dû remarquer vous-même, ceux qui recommencent à peine à apprendre alors qu'ils ne savaient rien, disent des bourdes du matin au soir. Il ne faut pas croire que parce que c'est dit d'un air pieux, c'est vrai. C'est tout simplement, c'est dit d'un air pieux, c'est tout. Vous avez compris le problème. Alors je reviens au sujet. En fait, ça on étudiera tout à l'heure si on a le temps. La formule du conte du Homer est différente chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. La Torah demande de compter les semaines et les jours. Et il faut compter 50 jours et 7 semaines. Alors on dit, aujourd'hui, c'est tel jour du Homer, ce qui fait tant de semaines et de jours. Par exemple, je sais pas, on va prendre un chiffre théorique. Disons le 31e jour du Homer. Alors on dit, aujourd'hui, 31e jour du Homer, ce qui fait combien de semaines ? 3 fois 7, 21 et... Non, 4 semaines, 4 semaines, 28 et 3 jours. Ce qui fait 4 semaines et 3 jours. Ça, c'est la formule Sfarad. Ashkenaz, oui, je m'embrouille. Je répète, la formule Ashkenaz consiste à dire, aujourd'hui, ça fait tant de jours du Homer, ce qui fait tant de semaines et tant de jours. Les Sfaradim disent, aujourd'hui, c'est tel temps de jours, ce qui fait tant de semaines et tant de jours du Homer. Le du Homer, on le met à la fin. Et pourquoi cette différence ? Eh bien, ça se relie au fait que les Sfaradim commencent à Pessah et s'arrêtent 33e jour avant, 33e jour après, c'est-à-dire ils comptent le temps qui sépare de Pessah. Alors que les Ashkenazim, c'est l'inverse, ils comptent le temps qui sépare de Shavuot. D'où vient la différence ? Bon, si vous avez compris l'importance du problème, c'est très important comme problème. C'est pas pour rien que la tradition Sfarad est comme elle est, la tradition Ashkenaz est comme elle est. Alors ça, on y dira tout à l'heure. Sachez que la règle de la halakha est très claire. On ne change pas de rite. On garde le rythme de sa famille, le rythme de sa communauté. Ce n'est pas pour rien que tel rite est comme ça et que tel rite est autrement. Est-ce que vous comprenez bien la règle ? Or, il arrive qu'il y ait des gens qui ont des problèmes parce qu'ils procèdent de familles tellement assimilées qu'ils ne savent même pas de quel rite ils sortent, ils prennent le rite de leur rave, mais de leur maître. Mais dès qu'on sait de quel rite on vient, il faut réapprendre le rite d'où on vient. Il y avait des tribus d'Israël, et chaque tribu d'Israël a une identité d'Israël qui est la sienne et qui n'est pas l'autre. Et chaque tribu d'Israël, c'est une tribu d'Israël. C'est pas pour rien que ces rites sont différents. Il y a toujours des raisons très précises. C'est des sciences qui ne s'étudient pas habituellement dans les écoles, mais qui sont bien évidemment extrêmement importantes. Et puis, on ne peut pas, violer l'identité profonde de chaque conscience. On est d'une tradition, on n'est pas d'une autre. Même si cette tradition est devenue inconsciente, elle existe en tant qu'inconsciente. Je ne sais pas pour qui je suis en train d'expliquer ça, mais sachez que si quelqu'un décide, pour des raisons, et des raisons valables, de changer de rite, il faut faire devant le tribunal rabbinique ce qu'on appelle Hatara Nedarim, c'est-à-dire la cérémonie qui enlève les vœux. Vous savez que c'est Hatara Nedarim ? Je ne sais plus comment traduire en français. L'annulation des vœux. Okay. On ne peut pas changer de rite par caprice. On va devant le tribunal rabbinique, on explique pour quelles raisons on veut changer de rite, et le tribunal rabbinique décide et fait une cérémonie qui change l'identité du postulant. Et ça peut arriver que quelqu'un préfère finalement passer du rite ashkenaz au rite sfarad ou l'inverse. Mais ça s'étudie au tribunal rabbinique, c'est pas par des caprices. Vous avez compris le problème. Il arrive qu'il y ait des écoles où la majorité des élèves sont des sfarades, mais les maîtres sont des ashkenazes, alors les élèves apprennent dans le rite ashkenaz, et finalement, certains sont tellement habitués qu'ils préfèrent prier dans le rite ashkenaz, alors on leur fait un changement de rite, mais c'est pas par caprice. Et on n'a pas le droit de prendre une chose d'un rite et une chose d'un autre. Chaque rite est cohérent pour lui-même dans l'ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire, okay? Il ne faut pas jouer à ces choses-là. Ou l'inverse. J'ai eu des cas d'ashkenazim, surtout d'origine de familles assimilées, qui ont étudié chez les sfaradim et qui préfèrent prier chez les sfaradim. Là aussi, il faut faire Atarat Nedarim. Vous avez compris le problème. Je reviens donc à la question. Dans tous les cas, tout le monde est d'accord que ce deuil doit se faire pendant cette période qui va de Pessah à Shavuot. Quelles que soient les différences, les 33 jours à partir de Pessah, les 33 jours à partir du 1er Iyar, ou bien les communautés qui font le deuil pendant les 50 jours, avec ou sans interruption à l'Akba Omer, c'est dans cette période-là qu'on a fixé ce deuil. La première remarque, c'est clair. On va se demander pourquoi. Comment ça s'explique? Je crois qu'en partant de Yom HaTzmaout, de l'événement de Yom HaTzmaout, nous avons eu, notre génération a le privilège d'avoir une expérience historique qui permet d'éclairer le problème. Voilà, on va remarquer que Yom HaTzmaout tombe dans cette période. Et pas seulement Yom HaTzmaout. Le Yom HaShoah, le Yom HaZikaron, le Yom HaTzmaout et Yom Shichur Yerushalayim. Tous ces événements qu'on commémore, qui prépare déjà le Milgan de Yom HaTzmaout, qu'on commémore dans le calendrier israélien, se situe dans cette période. Est-ce que c'est une coïncidence? Et quel est le sens de cette coïncidence? En tout cas, nous sommes témoins que les événements en question se sont bien passés à la date en question. C'est-à-dire, si on se demande, par rapport à la période de deuil du temps de Rabbi Akiva, est-ce que c'est pas arbitrairement que la tradition a décidé que ce deuil sera commémoré dans cette période-là? La question, on pourrait la reporter de notre temps. Est-ce que c'est arbitrairement que la Rabbanout Rachid a décidé que ces jours-là seraient dans cette période-là? La réponse est très claire pour nous. Nous sommes les contemporains. Ces événements se sont passés à cette date-là. Alors il n'y a pas de raison de ne pas inférer que, effectivement, les événements commémorés dans le deuil de la période de Rabbi Akiva sont bien passés dans cette époque. Vous avez compris le problème. Et alors, donc la question se formule un peu, de façon un peu plus précise. Qu'est-ce qui caractérise cette époque qui fait que des événements de ce type se passent dans cette époque-là? De quoi s'agit-il? Alors là, on va réfléchir ensemble pour découvrir la signification de la période de Homer. Alors, première remarque. D'abord, une remarque générale du point de vue du calendrier. Je suis gêné par ce bruit-là, mais vous arrivez à m'entendre malgré ma voix faible. C'est que aujourd'hui, nous avons déjà trois calendriers qui se superposent. Il y a le calendrier hébreu, on a l'habitude de dire calendrier hébraïque, qui commémore les événements des temps de la Bible, surtout des temps de la génération de la sortie d'Égypte. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque, c'est les événements de la génération de la sortie d'Égypte. C'est clair ? Par exemple, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, ces événements de ce temps-là, du temps de la révélation de la Torah. Ensuite, depuis la destruction du premier temple, commence le temps du calendrier juif. Le calendrier juif, vous avez des événements postérieurs au temps biblique, comme par exemple Purim, Hanouka, etc. Lag BaOmer en particulier. Ça fait partie du calendrier juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une racine, une trace dans le calendrier hébraïque plus ancien, mais au temps du calendrier hébraïque, ces événements n'avaient pas encore rencontré, je veux dire, ces jours dans le calendrier n'avaient pas encore rencontré les événements qui les commémorent. Par exemple, Hanouka, eh bien, c'est une date qui a une importance dans le calendrier hébraïque. C'était le jour de la construction du Beth Amikdash, du Mishkan d'abord, du Beth Amikdash. Chaque fois qu'il y avait inauguration du temple, c'était le 25 Kislev. Mais l'événement historique n'est arrivé que dans le temps des Juifs, plus tard, par la suite, dans la guerre contre les Grecs. Vous suivez, okay? Par exemple, l'événement de Pessah, eh bien, le jour du 14 Nissan a rencontré son événement à la sortie d'Égypte. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que 14 Nissan commémore la sortie d'Égypte comme événement. Mais le 14 Nissan était la fête de Pessah déjà au temps des patriarches. Mais ce n'était pas du tout la sortie d'Égypte, ça commémorait. Tout ça, vous avez le temps d'apprendre. Hein. Vous commencez à peine à redécouvrir un monde, vous avez le temps d'apprendre tout ça. C'est que chaque jour de l'année a une signification, et lorsque, dans le déroulement chronologique de l'histoire, l'événement caractéristique apparaît, la tradition, le Beddin du temps, le Sanhedrin du temps, déclare, à partir de maintenant, c'est cet événement qui, de façon irréversible, définit le jour en question. Prenez l'exemple de Hanouka.